Dan Mag, T comme Titane.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titane.
Et Dan.
Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé.
Dominique.
Avec nous au micro et de l'ami fidèle. Laurent, à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent. Complice et partenaire avec Majolire et ses passeurs de mots, le Titan Mag a rencontré une femme à multiples facettes. Elle est mère de deux filles, auteure et éditrice. Elle a commencé professionnellement dans l'écriture comme journaliste, utilisant la photographie comme support.
Il s'agit de Sylvie Gracia, éditrice. Elle entre au Rouergue en 1998 pour créer la collection littéraire La Brune qu'elle anime depuis lors. Elle a publié dans cette collection de nombreux premiers romans et a fait émerger des auteurs comme Antoine Piazza, Pascal Morin, Arnaud Rickner, Marie-Sabine Roger, Fabienne Juel, Claudie Gallet dans le best-seller Les Déferlantes s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires et a reçu le prix des lectrices de Elle en 2009. En parallèle, elle développe les collections de romans pour la jeunesse, dont celle pour les adolescents, appelée Dos à dos, réputée pour ses textes de qualité et souvent incisifs, dont par exemple la trilogie à succès d'Anne Persin, qui s'intitule « Comment bien rater ses vacances ». Et ensuite, Sylvie Gracia, l'écrivain, qui a publié 6 romans, « L'été du chien », édition L'Arpenteur Gallimard en 96, « Les nuits d'Itachi », chez le même éditeur en 99, « L'ongle rose », chez Verdier en 2002, « Regarde-moi », Vertical en 2005, « Une parenthèse espagnole », Vertical en 2009, « Le livre des visages » chez Jacqueline Chambon en 2012. Ces livres profondément ancrés dans leur temps. C'est donc lors de cette rencontre que Dominique Molin a interrogé Sylvie Gracia. Écoutons-les.
Sylvie Gracia, merci d'avoir accepté cet entretien avec Couleur FM. Je rappelle que vous avez publié en 2012 chez Jacqueline Chambon un livre qui s'intitule « Le livre des visages ». Et dont le sous-titre est « Journal facebookien 2010-2011 ». Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des femmes. Les libraires de Majolire ont souhaité que vous rencontriez le public à cette occasion. On va d'abord parler peut-être de cette circonstance particulière. Ensuite, j'aimerais qu'on en vienne à votre écriture. Vous avez beaucoup de réflexions sur l'écriture dans ce livre, les relations entre l'écriture, la photo, les images, le texte, etc. Et puis enfin, je vous demanderai de parler de votre quotidien professionnel, votre métier d'éditrice auprès des éditions du Rouergue. Alors, j'ai envie de commencer cet entretien par un texte que vous citez de la romancière américaine Joyce Maynard, une phrase qui est extraite de son autobiographie. Joyce Maynard a été un temps compagne de Salinger.
Oui, temps très court, oui.
J'espère qu'une intellectuelle féministe étudiera un jour pourquoi, lorsqu'une femme raconte son histoire, elle est si fréquemment tournée en ridicule, est jugée comme égocentrique et fondamentalement dénuée d'importance. L'hostilité envers les femmes, qui demeure enracinée dans notre culture, se mesure à la manière dont une femme écrivain, racontant les luttes qui se trouvent au cœur de la vie des femmes, se voit si souvent reprochée de donner dans l'affectif la complaisance et le trivial.
Ah, on commence frontalement. Oui, alors, effectivement, c'est la journée du 8 mars et on pourrait penser que dans un milieu privilégié comme celui de la littérature, de l'édition, du monde des écrivains, le statut, la femme est reconnue à part entière et qu'il n'y a pas de discrimination comme dans d'autres milieux plus défavorisés ou des pays où effectivement la condition de la femme reste encore dramatique. Et en fait, pour parler concrètement, hier, j'ai pris un café avec une femme écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Caroline Lamarche. Caroline Lamarche, c'est une femme d'origine belge, qui vit en Belgique, et qui est publiée chez Gallimard, après avoir été publiée par Minuit. Une femme qui fait un travail important, qui n'est pas reconnue à sa juste valeur. Et elle me disait, mais on est toujours dans cette situation-là. Par exemple, elle me parlait d'un magazine qui s'appelle Books, qui récemment a interviewé 20 écrivains sur leur vie intime. Et sur ces 20 écrivains, il y avait 19 hommes. c'est aujourd'hui en France, dans le milieu de la littérature. Et ce qu'on se disait, c'est que ça relève véritablement de l'impensé. Et elle m'a dit, d'autant plus, Caroline Lamarche m'a fait remarquer, que la journaliste qui avait conçu ce numéro spécial sur la vie intime des écrivains était une femme. Et donc, voilà, une femme qui réfléchit sur la littérature aujourd'hui, qui interviewe 20 écrivains, n'a même pas perçu qu'elle était dans ce regard-là sur la littérature, qu'elle allait naturellement vers des hommes. Voyez, et moi, je peux vous citer X cas de manifestations importantes, officielles, autour de la littérature, où la proportion de femmes écrivaines, mais vraiment, relève de la très, très grande minorité. Très, très grande minorité. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, bon, ben moi, en tant qu'éditrice, je le sais, je sais que le nombre de femmes qui écrivent aujourd'hui est quasiment à égalité, que le nombre de femmes éditées est un petit peu moins important, mais qu'aujourd'hui, quand même, il y a un certain nombre de femmes qui arrivent à une très grande notoriété. Et puis surtout, on le voit là dans l'Assemblée, on sait que les lecteurs sont en grande majorité, les lecteurs de romans sont en grande majorité des femmes. Donc dans un milieu comme celui-là, où l'on pourrait penser que qu'il y ait une forme d'ouverture et de... Bon, moi, dans mon prochain livre, par exemple, je voudrais essayer d'approcher ça. C'est très compliqué, parce que de voir le regard qui est porté aujourd'hui sur les femmes écrivains et sur les hommes écrivains, je peux vous dire que parfois on se sent, effectivement, on fait encore de la littérature mineure. Peut-être affective, peut-être égocentrique, etc. Alors effectivement, on ne le dit pas frontalement, mais tout de même. Et sincèrement, je vais essayer d'aborder ça de façon très concrète sur un festival de littérature auquel j'ai participé il y a 2-3 ans, où il s'est passé des choses qui me semblent vraiment représentatives de ce regard-là, parfois dévalorisant.
On revient un moment à cette journée des droits de la femme. Vous en pensez quoi? Est-ce que ce n'est pas un petit peu dérisoire par rapport à tous les problèmes, les difficultés, les violences dont on entend parler à cette occasion?
Oui, bien sûr. Mais bien sûr, on sait bien qu'une journée telle que celle-là ne sert pas à grand-chose, sinon à rappeler un certain nombre de faits. C'est vrai que moi, depuis hier, si vous écoutez, vous ouvrez votre radio, vous ouvrez votre télé, vous entendez parler de certaines choses. Moi, ce matin, par exemple, j'ai visionné un petit film sur les réseaux sociaux, un petit film de 4 minutes qui a été fait par une réalisatrice française, un petit film de fiction qui dénonce les 14 millions de mariages forcés, de mariages de mineurs forcés dans le monde chaque année. C'est-à-dire qu'il y a 14 millions de petites filles qui sont mariées à des hommes qui ont parfois 3 fois leur âge. Donc elle a fait un petit film de fiction qui met en scène une gamine de chez nous. Elle a 10 ans, elle joue dans la cour de récréation, puis tout d'un coup ses parents l'habillent, la maquillent, la mènent dans une voiture et la marient à un monsieur qui pourrait être son grand-père. Alors c'est incroyable parce que ce film de fiction a été réalisé dans notre monde à nous, donc la petite fille elle ressemble à nos petites filles d'ici, mais c'est ce qui se passe dans un certain nombre de pays dans le monde tous les jours, quoi. Voilà, ça rappelle un certain nombre de choses.
Vous pouvez commenter ce propos que vous citez de Françoise Héritier sur la différence des sexes, qui parle de la femme soumise à la domination masculine parce que son corps reproduit de l'autre.
Ah voilà, là, moi je suis pas Françoise Héritier est une très grande dame. Très très grande dame, voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que
Vous rapportez son propos.
Oui, je rapporte son propos, puis je rapporte son propos dans un cadre un peu particulier, en parlant de ma propre mère, puisque ma mère est née la même année que Françoise Héritier. Enfin bon, ça c'est anecdotique, mais oui, on reproduit de l'autre, et que on est maîtresse de ça, on donne naissance. Et que, selon Françoise Héritier, c'est ce qui explique aussi tout ce travail de domination sur les femmes.
Vous voulez nous raconter l'incident que vous avez vécu lorsque vous êtes allé voir un film espagnol?
Ah oui, oh là là, j'aurais dû me relire avant. Oui, alors c'est un film espagnol récent, alors je me souviens même plus du nom, vous allez me rappeler.
Non, j'avoue que le titre, malheureusement, non, je ne l'ai pas.
Alors c'est un film qui a été, c'est un film donc récent, tourné par un réalisateur espagnol très peu connu, je crois que c'était son premier film de fiction, c'est un documentariste. Et donc il situe ce film dans les années 50, sous la dictature franquiste. Et il met en scène une jeune femme qui va tenter de survivre. Les années 50, la dictature franquiste, c'est une chose horrible, parce que c'est vraiment une véritable dictature où tout le monde se surveille. C'est-à-dire qu'en Espagne, par exemple, dans ces années-là, il y avait des concierges, et les téléconcierges qui tenaient aussi les quartiers, qui étaient capables, qui étaient en lien avec la police franquiste et qui rapportaient absolument tout. Et donc, dans ce film, il y a une jeune femme qui va s'en sortir de toutes les manières possibles, par la sexualité, mais aussi par la dénonciation, etc. Au moment où on voit ce film, c'est dans une salle où il y a... Le réalisateur est présent, donc il y a vraiment, c'est à Paris, il y a vraiment toute une partie de la communauté espagnole, enfin beaucoup d'Espagnols dans la salle. Et quand le film se termine, quelqu'un crie dans la salle « la salope ». La salope, quoi. Alors que c'était une, enfin pour moi, c'était une femme qui était à la fois victime et par ses dénonciations, elle va faire arrêter des résistants, mais elle n'est pas qu'une salope. Elle n'est pas d'abord une salope, elle est aussi une victime de ce poids, cette chape terrible à la fois politique et puis à la fois sur son sexe.
Alors, votre commentaire par rapport à ça, c'est que vous écrivez « On ne pardonne rien à une femme dans la séduction de ses bas de soie ouais. ». Et puis vous ajoutez « Sorcière brûlée, collabo tendu, le mal niché au plus profond du corps féminin à extirper ».
Oui, parce que, par exemple, si on en revient à la situation actuelle en Espagne, on voit que là, en ce moment, l'avortement est en train d'être remis en cause. Et c'est vrai que dans des situations politiques difficiles, l'autre jour je disais ça, on s'attaque d'abord aux femmes et ensuite aux livres. Enfin, ce qui n'est pas étonnant, qui se répète assez. Vous prenez toutes les situations comme ça de pouvoir, les femmes sont souvent les premières victimes et l'ont. Effectivement, sur la question de la séduction, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que dans ce film-là, la femme est extrêmement belle et on ne lui pardonne pas. Oui.
Vous allez plus loin dans votre commentaire, vous parlez de. Représentation primitive de la femme, de la femme animale.
De la femme animale, oui. Je vais encore plus me pousser dans mes retranchements. Oui, c'est la force du corps de la femme, à la fois en tant que mère et en tant que femme sexuelle, etc., qui peut susciter le désir, etc. Que on sait bien aujourd'hui, ces femmes que l'on voile aujourd'hui dans tous les pays du monde et même en France. Pourquoi est-ce qu'on les voile ? Quel danger est-ce qu'elles représentent ? C'est ça, je veux dire, le danger que représentent les femmes, le danger que représentent les livres, c'est assez étonnant quand même. Et la parole, le livre des femmes et l'action, les femmes qui agissent sont effectivement toujours terriblement, enfin on pense tout de suite qu'elles sont dangereuses. Comme s'il y avait un danger au fond des femmes très très grand, quoi. En tout cas, de femmes qui s'imposent comme femmes, oui. Nous sommes dangereuses. Je ne sais pas, il y a un livre célèbre là. Femme qui lise, femme dangereuse. Memoria de tanta espera. Teu corpo sereno salta do chão. E eu já vejo meu corpo descer. Te encontro no meio da sala ou da rua. Não sei o que vou contar. Respostas virão do tempo. Um rosto claro. Na mão, na franja dos dias, esqueço que é velho, que é manco, e é como te encontrar. Um espelho feria meu olho, e na beira da tarde. Uma moça me vê, queria falar de uma terra com praias no norte e vinhos no sul. A praia era suja, o vinho vermelho, vermelho secou. Acaba a festa, guarda a voz e o violão. Caminho com pedras na
franja dos dias. Esqueço que é velho, o que é manco, e é como te encontrar. Como a te encontrar. Como a te encontrar.
FM 97.1, avec notre invitée Sylvie Gracia, nous venons d'entendre George Duke dans How Que Vai Nascer, de l'album A Brazilian Love Affair.
Alors dans le livre des visages, vous vous livrez beaucoup, parfois de manière très intime, et vous écrivez sans doute, nous les femmes, ferons-nous plus facilement cette parole Tenons-nous plus facilement, pardon, cette parole du corps, conversation secrète dans l'intimité des cuisines ancestrales, l'affrontons-nous dans la maladie, la maternité, le vieillissement des proches et le nôtre, le désir, même si je rêverais d'une littérature plus libre, quant au désir et au plaisir des femmes.
Oui, alors donc, ce rapport des femmes qui écrivent et du corps, c'est vrai que dans les années 70, par exemple, autour de la littérature qui a émergé dans ces années-là, c'était aussi une littérature du corps. On a commencé à parler des règles. Alors, je vois qu'il y a une artiste ici qui travaille avec des tampons. La question du corps chez les femmes est bien sûr essentielle, puisque... Bon, alors, c'est très compliqué à dire, parce que bien sûr que les hommes ont un corps, etc. Mais la place qu'on nous a donnée a été longtemps celle du corps, quand même, puisque nous avons porté des enfants, puisque nous étions liés à l'intimité de la maison, à l'entretien du corps des autres, etc. Et que dans la littérature, c'est normal aussi que la parole qui émerge aujourd'hui, et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent émerger, c'est aussi une parole du corps. En tout cas, moi, en tant que femme, il n'y a rien de politique là-dedans. C'est vrai que j'ai eu d'emblée, quand je me suis mise à écrire, une littérature qui était proche du corps. Je me souviens des premiers textes que j'écrivais... Même des textes que j'écrivais autour de mon enfance, c'était autour de mon corps de petite fille ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose que je vois aussi dans la littérature masculine. C'est vrai que la littérature masculine, souvent, est beaucoup plus intellectualisée, beaucoup plus à distance. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'une littérature de femmes ou que toute femme qui écrit est comme ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « ma littérature est universelle, je n'écris pas à partir de mon être de femme », etc. J'ai déjà eu des débats avec des femmes écrivains où on était dans la confrontation avec ça. Elle disait, moi je suis femme, j'écris, mais je n'ai pas une écriture de femme. Je ne veux pas être cela. J'écris à partir de ma singularité, mais ce n'est pas d'abord à partir de ma singularité de femme. Moi, c'est venu comme ça, donc je ne revendique rien. C'est vrai que la question du corps dans toutes ses dimensions m'intéresse beaucoup. Et que j'essaye d'être au plus près de cette sensation-là et de ma singularité-là.
Alors vous écrivez sur vous écrivez sur votre quotidien, vous vous exposez, puisque ce livre va être publié. Qu'est-ce qui peut inciter à faire cette démarche et dire des choses de soi, personnelles, intimes, et vouloir les publier ?
Alors, pour revenir à ce livre-là, ça n'a pas été le cas dans tous les livres, hein, mais dans celui-là, donc, qui s'appelle « Le livre des visages », en fait, l'écriture a été très particulière puisque dans un premier temps, ce sont des chroniques que j'ai publiées sur le réseau Facebook. Alors en fait, pour expliquer un petit peu comment c'est venu, alors c'est encore plus exposé puisque sur le réseau Facebook, on peut être commenté immédiatement, il n'y a pas la distance du livre. Et puis surtout, ça se fait dans l'immédiateté. En fait, donc j'ai été très vite sur le réseau Facebook parce que mes filles adolescentes étaient sur le réseau Facebook. Et comme elles y passaient beaucoup de temps, je voulais savoir ce qu'elles y trouvaient. Donc pour savoir ce qu'elles y trouvaient, j'y suis allée. Et j'ai été moi-même attrapée par cette mécanique de Facebook. Et j'ai commencé à faire comme tout le monde, à mettre des commentaires et puis à publier des photos. Faite avec mon téléphone portable, comme toute adolescente qui se respecte. Et en fait, j'ai été prise au piège, c'est-à-dire comme quand même tout texte que j'écris, au bout d'un moment, enfin, je ne le livre pas, j'écris, quoi. Je me mets vraiment à écrire, c'est-à-dire je travaille ma phrase, je réfléchis à ce que j'écris. Il n'y a rien de spontané là-dedans. Et donc, Au bout de 15 jours de commentaires et de photos postées sur Facebook, en fait, j'étais déjà dans un travail littéraire. Je me suis dit, mais tu as commencé un nouveau projet. Tu as commencé un nouveau projet. Sans, alors ça, c'est souvent, vous savez, quand on écrit, on ne maîtrise pas grand-chose souvent au début. C'est-à-dire que les livres commencent malgré soi, souvent. Bon, ça peut paraître étonnant, les gens pensent qu'avant d'écrire, mais souvent, on est dans le projet, on se rend compte qu'on est dans un projet alors qu'on l'a déjà démarré. Et là, je me suis rendu compte que j'étais dans un projet d'écriture avec photos qui m'excitait beaucoup. C'est-à-dire que j'avais une forme d'écriture que je n'avais jamais pratiquée et que surtout la machine fonctionnait. La machine à écrire, comme on dit, fonctionnait. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, je publiais 2 ou 3 textes quand même assez longs par semaine, ce qui est beaucoup. Et j'ai écrit comme ça en 1 an ce livre-là. Et que j'entrais dans une écriture autobiographique. Alors j'avais déjà pratiqué l'écriture autobiographique, mais là j'étais dans une immédiateté, dans un dévoilement qui pour moi était l'intérêt de la chose. Et l'immédiateté, c'est-à-dire que j'écrivais mon quotidien au moment où ce quotidien se déroulait et dans l'émotion de ce qui se déroulait. Et ça, c'est assez rare, parce que quand vous écrivez, même si vous écrivez, par exemple, une émotion un peu dramatique, etc., vous l'écrivez à distance, vous trouvez les mots. Alors que là, ce qui était intéressant, c'est que je m'obligeais à écrire, par exemple, un moment pas très drôle, dans le moment même où je le vivais. Et donc ça impose quand même un type d'écriture particulier, et puis un rapport de soi à l'écriture qui est un peu particulier.
Vous ne procédez pas, si j'ai bien compris, hein, toujours de cette manière. Souvent, vous prenez la photo, puis vous la laissez de côté, puis vous revenez quelques jours après avec des mots.
Parfois, quelques jours après, mais parce que je n'avais pas le temps. Mais l'émotion était assez proche pour que je sois encore dans la chose. Quand vous êtes sur l'écriture d'un roman, par exemple, ben, c'est un roman, l'écriture, elle vous tient 1 an et demi, 2 ans. Vous êtes dans une distance, bien sûr. Et puis on dit que la littérature, c'est d'abord de la distance, celui qui écrit. Vous savez, les gens, parfois, vous écrivez des scènes à pleurer. Et quand vous écrivez, vous ne pleurez pas. Vous n'êtes pas dans l'émotion de la... vous êtes... Vous voyez, c'est quand même un travail bizarre d'écrire.
Alors vous dites que cette écriture d'un journal vous permet de libérer l'opaque.
Libérer l'opaque.
L'opaque.
Oui, mais ça, toute écriture libère l'opaque. L'opaque, c'est-à-dire que si vous voulez quand même... Là, par exemple, moi, je suis en train d'écrire des portraits de femmes. J'en ai écrit 7-8. Et là, je suis en train d'écrire mon autoportrait. Ce qui est très bizarre, quoi, d'écrire son autoportrait. Mais bon, si on fait le parallèle avec la peinture, le travail d'autoportrait dans la peinture est aussi une démarche très intéressante. Donc là, j'écris mon autoportrait, mais ça fait 1 an que je me dis, tu vas écrire ton autoportrait, mais je ne sais pas ce que je vais écrire. Je suis dans l'opaque complet, vous savez, on ne se voit pas, soit c'est le... Vous savez qu'on a inventé l'autoportrait en peinture quand on a commencé à inventer le miroir, quoi. On a inventé le miroir, on a pu se regarder, donc se peindre. Et quand vous êtes dans l'écriture, l'autoportrait, quand je dis, je suis en train d'écrire mon autoportrait, tout le monde me regarde, me dit, mais comment tu fais? Mais moi-même, je ne sais pas comment je fais. Et je suis dans l'opaque, c'est-à-dire je ne me vois pas. Et pourtant, je fonce dans l'opaque.
Alors vous libérez l'opaque.
Je le libère, ouais, enfin bon, on va voir ce que ça donne.
Et puis vous luttez contre l'oubli aussi, vous le dites.
Oui, alors, parce que dans ce journal-là, c'était vraiment attraper le temps toujours. Puisque j'écrivais quasiment au jour le jour, attraper le temps, moi j'ai une mémoire très, très fugace, j'oublie beaucoup les choses, j'oublie les noms des gens. Et quand vous écrivez au jour le jour, vous stoppez le temps, quoi. Je ne sais pas, je ne vais pas relire ce livre-là, mais je sais que dans une page, je pouvais fixer un moment qui avait eu lieu, je ne sais pas, un vendredi, dans tel lieu, en plus il y a la photo, et j'arrête quelque chose, oui. En plus, la photo est vraiment l'art qui permet d'arrêter le temps, quoi, qui fixe. Et puis on sait bien que parfois, lorsqu'on regarde ces photos anciennes, une photo prise il y a 15 ans peut faire remonter une foule d'émotions. L'image fixe ça, quoi. Donc j'avais non seulement l'image, mais ensuite le texte qui venait avec, et qui était aussi ce travail de fixation, quoi.
Et en même temps, vous dites, parce que vous dites énormément de choses sur l'écriture, je trouve, dans votre livre, les mots redoublent la vie, ou plutôt lui donnent une vie autre. Et ce qui demeure est ce qui a été écrit plus que ce qui a été vécu. C'est assez troublant, non ?
Oui, parce que si vous voulez, tout écrivain, même qui ne travaille pas sur son autobiographie, enfin sur sa propre vie, utilise forcément des éléments vécus, des personnages croisés, etc. Et les tritures, et en fond, font de l'écriture. Et on s'aperçoit que l'écriture, moi je l'ai déjà vécu plusieurs fois, d'avoir réécrit des choses de mon histoire. Et ensuite, j'oublie la réalité de ce qui a été vécu, et ce qui devient vrai, c'est ce qui a été écrit. Oui, l'écriture redouble la vie. Enfin, ça ne veut pas dire que ceux qui écrivent ne vivent pas, au contraire, mais que, en tout cas, écrire renforce la vie, et même réécrire la vie, ça veut dire ce que vous faites de la vie dans l'écriture, c'est ça qui devient vrai.
Alors, dans cette vie quotidienne, donc, il y a des moments qui sont vides de sens. Et vous dites qu'ils sont importants ces moments-là parce qu'ils soulignent ceux qui, du coup, ont beaucoup d'importance.
Je crois que c'est le cas pour nous tous. On sait bien que notre quotidien est un quotidien. Et que quand il se passe quelque chose soit qui agrandit le quotidien ou qui nous fait sortir du quotidien, là, il faut garder la possibilité de mesurer ce qui surgit. Je souligne le quotidien et puis je sais bien, puis en plus en vieillissant, on sait bien percevoir, on peut parfois avoir des moments de bonheur qui tiennent à rien du tout. Hein. Ça peut être un rayon de soleil qui arrive un jour et un voyage en train, et puis tout d'un coup, on sort du quotidien, on sort du banal.
En fait, vous ne refusez rien à cette écriture. Vous parlez de solitude, par exemple, quand vous écoutez une chanson de Leonard Cohen, et puis là, tout d'un coup, ça arrive. Et voilà, c'est dans le livre des visages.
Moi, on m'a toujours dit que mes livres parlaient beaucoup de la solitude et qu'ils transportaient très grande solitude. Oui, je pense que je suis un être, quelqu'un de solitaire, plus que beaucoup de gens. Et à la fois, je suis tout le temps avec des gens, par exemple. Mais la solitude est quelque chose qui comporte en soi et une capacité à la vivre aussi, oui. Pour écrire, il faut être dans un état de solitude. On peut pas... De solitude, on est capable de se mettre à l'écart et de ne vivre que de ça, et de vivre que par ça.
Toujours sur ce que vous écrivez dans ce journal, j'écris ma vie puisque ça me console de ne pas savoir la vivre. Vous êtes dur avec vous-même, là, non?
Oui. Mais ça passe. Non, mais ça c'était un moment difficile quand même. C'est vrai que je pense que je suis. Je pense qu'il y a des gens qui savent mieux vivre que moi. Oui. On pense toujours qu'il y a des gens qui savent mieux vivre que vous, qui savent mieux profiter de la vie, qui savent mieux être. Tirer le meilleur du jour, des jours, du quotidien et tout ça. C'est vrai que je pense, mais je m'améliore. Je suis en progrès constant.
Alors, j'ai envie d'employer le mot cheminement, ce cheminement vers vous-même à travers 18 mois de votre vie et des mots que vous avez, auxquels vous avez eu recours pour en parler. Vous dites, longtemps j'ai été une femme invisible au regard, longtemps j'ai été laide. Pour la première fois de ma vie, je regarde mon corps de femme et je le vois tel qu'il est. Tout ce temps pour se mettre au monde.
Oui, c'est marrant que vous me rappeliez ça sur les femmes invisibles, parce que je suis en train de réécrire sur ça, tout en ayant oublié que j'avais écrit ça déjà. On réécrit toujours les mêmes choses. Hein, mais... Justement, dans ce livre-là, donc, j'ai dépassé la cinquantaine, donc je vois le corps vieillir et je me confronte à ça, je me confronte encore plus à ça dans le texte que je suis en train d'écrire. Comment dire ? Voilà, on revient à la question de l'autoportrait. Comment on se voit soi ? Comment les autres vous voient ? La perception qu'on a de soi. Mais je pense que pour toutes les femmes, c'est quelque chose, la question de ce qu'on transmet de soi est quand même toujours essentielle. La question de cette apparence physique et tout ça. De ce stéréotype, quelle femme on est, quelle femme on n'est pas, est-ce qu'on est visible, invisible et tout ça. Mais ce que je perçois, moi, n'a rien à voir avec ce que les autres peuvent percevoir. Un tel peut percevoir et tout ça, oui. Mais en tout cas, se confronter à la question du corps, comme je disais, le corps, c'est la parole du corps, l'écriture autour du corps, c'est important pour moi. Donc, se confronter au vieillissement du corps, c'est aussi nécessaire, quoi.
Et du coup, vous avez l'air d'envier ceux dont vous dites qu'ils sont sur l'avant-scène.
Oui, toujours, oui.
Vous dites les êtres nés accomplis, peau fine et lumineuse, et qui marchent déployés, gestes souples et rire conquérant.
Ça a l'air ridicule d'écrire ça, mais vraiment, oui, par exemple, j'ai des amis qui, pour moi, sont des femmes lumineuses, voilà. Et je les vois comme ça, mais je les pars de choses comme ça, voilà. Mais on a, je ne sais pas, et c'est aussi aux autres femmes de le dire. Et c'est pas de la rivalité, parce que je suis pas du tout en rivalité avec les femmes, par exemple, qui sont belles ou qui sont lumineuses, qui savent mettre des talons. Par exemple, dans ce livre-là, le livre des visages, je parle d'une amie à moi qui s'appelle elle, qui s'appelle Laurence, qui est vraiment une amie, quoi. Et pour moi, c'est la femme accomplie, quoi. Elle porte des talons, des colliers, et tout ça.
C'est elle qui un jour vous offre un bijou.
Et elle m'offre un bijou un jour, elle m'offre un collier, ouais, ouais. Elle m'offre un collier, je trouve ça extraordinaire, quoi. Elle m'a appris à marcher sur des talons et tout. Et l'autre jour, elle m'a même dit, tiens, tu mets plus de collier en ce moment. L'air de dire, ça va pas bien, ma pauvre.
Vous avez deux filles.
J'ai deux filles.
Elles sont très présentes dans le livre.
Oui, elles sont très présentes.
Et vous parlez de ce moment où on parvient à atteindre, établir une certaine distance entre la distance et l'intimité. Voilà, vous parvenez à établir une relation avec elle qui soit un peu distante et en même temps reste intime.
Oui, alors là, c'est encore plus vrai parce que maintenant, mes filles ont 21 et 25 ans, donc elles sont quasiment adultes. Enfin, l'aînée est adulte, elle a sa propre vie. Pour la seconde, c'est encore un peu entre les deux. Mais c'est vrai que la relation mère-fille est une relation qui est à la fois complètement... Voilà. Alors là, on peut être dans le miroir, on peut être dans l'absorption, dans le truc, et puis à la fois, tout le travail, c'est aussi de faire la séparation. Les enfants font très vite la séparation, c'est plutôt pour les mères, c'est souvent difficile, voilà, donc on fait, il y a un passage quand les enfants grandissent où il y a à la fois l'intimité et la distance. Les enfants ne nous appartiennent pas, un petit peu, mais non, mais là, justement, l'apprentissage de l'autonomie est quelque chose de très, très important, quoi. On sait que les enfants qui se séparent sont des enfants qui vont bien. Mm-hmm.
Nous avons entendu Sylvain Boeuf dans Solo de l'album Soul Notes et nous sommes sur Couleur FM 97.1 et toujours avec Sylvie Gracia.
Avant que peut-être on en arrive à votre travail d'éditrice dans ce bouquin, bon, vous nous parlez beaucoup de vous, on l'a vu un petit peu, mais en même temps vous vous déplacez beaucoup, vous marchez à pied, vous prenez le vélo et le monde qui est là ne vous est pas étranger. Vous faites très attention à tout ce que vous voyez hein, quand vous évoquez ce groupe de Roms qui est assis sur un carton et qui a l'air de discuter comme s'ils étaient parfaitement à l'aise. Vous évoquez cette personne qui est sur un parapet du cas des grands Augustins, je crois. Mm. Puis vous évoquez un jour quelqu'un qui est sous une balle, peut-être il est mort. Enfin, la société est là aussi dans ce livre.
Oui, parce que je vis à Paris et c'est vrai qu'à Paris, on se promène, on marche beaucoup dans les rues, on est dans le métro, on est confronté à énormément de choses, à des gens extrêmement différents. Moi, je suis née dans l'Aveyron, dans un petit village. Ensuite, j'ai vécu à Montpellier et quand j'avais 15 ans, ma seule ambition, c'était d'aller vivre à Paris pour être dans un monde complètement ouvert, etc. Et que je reste toujours... dans cette ville, un petit peu, je ne suis pas parisienne. Enfin, tout à l'heure, on m'a demandé parisienne. Oui, je suis parisienne et à la fois, je ne le suis pas. C'est-à-dire que j'essaye de garder, mais je crois que c'est le propre. Voilà, j'essaye de toujours garder les yeux ouverts, c'est-à-dire d'être toujours étonnée par cette ville. D'abord par sa beauté, parce que je trouve que c'est une ville quand même d'une beauté incroyable. En plus, moi, je travaille près de... Pour vous dire, je travaille près des quais de la Seine à Saint-Michel. Donc, quand je sors, je vois Notre-Dame, je vois l'île de la Cité. Enfin, je trouve que c'est un des plus beaux lieux du monde, quand même, souvent. Et puis, à la fois, Paris, c'est une ville où il y a énormément de misère, où il y a aujourd'hui un nombre de sans-domicile, de gens qui vivent dehors. Mais vraiment, c'est de pire en pire. Et on est en permanence confronté à ça. On est confronté à des gens différents. Et quand on se promène beaucoup, ben, je veux dire, quand on garde les yeux ouverts, quoi, on voit ce qui se passe, même si on devient complètement indifférent, parce que 10 fois par jour, il y a des gens qui vous demandent de l'argent et qu'on peut pas, voilà, mais on voit des enfants qui vivent dehors à Paris. Enfin, je pense qu'à Bourgoin-Jallieu, c'est pas le cas, mais à Paris, 3 à 4 fois par jour, vous voyez des gens qui vivent et même des enfants qui vivent dehors, qui dorment dehors. Donc, dans ce journal-là, il y a aussi tout ça, mais dans tous mes livres, en fait, il y a eu cette présence de la ville, parce que la description des lieux de la ville, pour moi, c'est extrêmement important, parce que je vous dis, je suis une petite fille de la campagne et qui a toujours rêvé de la ville. Et donc, la ville, pour moi, c'est vraiment le lieu de tous les possibles aussi, du pire et du meilleur. Et puis, j'aime la ville, quoi. J'aime le bruit, j'aime l'agitation, j'aime l'inattendu qui arrive tout le temps, quoi. Et pour quelqu'un qui écrit, c'est aussi vous sortez, vous savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, ce qui va se passer. La vie, elle est là aussi en permanence.
Je reviens un moment vers le livre des visages. Vous arrivez à la fin, vous relisez, et puis vous évoquez tout ce que vous n'avez pas écrit. Vous parlez d'évitement. Il y a des choses qu'on ne peut pas écrire.
Oui, il y a des choses. Quand vous dites l'opaque, il y a des choses. Oui, par exemple, je dis que je ne parle pas de ma mère, de choses comme ça. Par exemple, dans le prochain livre, j'ai encore essayé d'écrire sur les mères, sur ma mère. Je n'y arrive toujours pas. Oui, il y a des choses qu'on n'arrive pas à écrire. Alors après, on se dit peut-être qu'il faut vieillir pour traiter de certaines choses. Peut-être qu'il faut, on ne sait pas quoi. Mais pourtant, c'est bien quand ça résiste, quoi. On se dit, allez, tu vas y aller encore une fois, et encore une fois, ça résiste. Et tu te dis, c'est pas possible, quand même.
Oui, vous le dites, hein. Faut pas chercher à forcer les mots. Peut-être que le temps fera le travail.
Voilà, vous trouvez des biais, mais de toute façon, en plus, on comprend souvent ce qu'on a écrit après coup, parfois 4 ou 5 ans après que le livre a été publié. Tout d'un coup, vous relisez le livre et vous voyez à la fois ce qui a été dit et ce qui n'a pas pu être dit, mais parce qu'il n'a pas pu être dit. Et comme ça, là, vous savez, l'écriture, elle est faite de couches. Hein. Et puis, il y a ce qui est apparent, là. Et puis, il y a le reste qui est derrière, qui est une sorte d'impensé qui se transmet aussi au lecteur, parfois, du non-dit, qui se transmet forcément et qui fait en tout cas en sorte que le livre a un peu de sens, quoi. Enfin, je veux dire, moi, quand je lis, je sens la... Si vous voulez, quand tout est à la surface dans un livre, qu'il n'y a pas grand-chose derrière, vous le sentez immédiatement. Quand les fondations ne sont pas très grandes, et dans un livre, parfois les fondations sont profondes, et d'autres fois, elles sont juste... Il n'y a pas grand-chose d'autre que la surface.
Alors, Le Livre des Visages, c'est votre meilleur livre. C'est vous qui, c'est vous qui l'écrivez.
J'ai écrit où?
Page 217.
Oh là. Bah oui, bah, je me fais des compliments parce que personne ne m'en fait.
Non mais moi, je ne vous en fais pas de reproche. Vous avez quand même écrit 5 romans.
Oui. Alors, non mais en fait, parce que ce roman, en fait, il est, ce livre a été écrit en réaction au précédent, qui s'appelait La parenthèse espagnole. Et j'ai longtemps pensé que c'était un livre raté. Et raté notamment parce que je prenais de la distance avec moi-même. Pour le dire rapidement, le narrateur est un homme. Le narrateur est un homme dans ce roman, alors que bien évidemment, c'était moi qui devais m'exprimer. Et j'ai pris de la distance romanesque dans ce roman en pensant que j'allais faire du meilleur travail. Donc je me suis forcée, je me suis dit, allez, tu es sérieuse, tu sors de ta narratrice femme, tu vas faire un homme, tu vas construire un personnage d'homme. Et je pense que j'ai aussi en partie raté ce livre, parce que justement, je me suis soumise un peu à un diktat de distance romanesque et d'invention d'un personnage homme. Et quand j'ai commencé à écrire les textes du Livre des Visages, je me suis dit, mais là, tu es raccord avec ce que tu es, ce que tu veux écrire. Voilà. Parfois, on sent qu'on est raccord. Oui, et je dirais que le livre, pour moi, est plus important sur le réseau social, sur ce qu'il était sur le réseau social, que dans cette forme objet, quoi. Parce qu'en plus, je ne suis pas contente de la couverture, je ne suis pas contente de plein de choses, mais...
Quand même, là, moi, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de votre conception du roman, mais est-ce que vous autorisez un lecteur à avoir aimé une parenthèse espagnole?
Mais oui, bien
c'est
sûr.
C'est un beau livre. C'est un beau livre.
Bien sûr, bien sûr.
Un très beau livre. Un roman de la mémoire, je trouve, c'est un livre magnifique.
Oui. Bon. Mais moi, un jour, je pense que je pourrais le réécrire.
Ah, il est magnifique. Il y a des choses extraordinaires. Ces gosses qui viennent autour de la voiture rouge, du cabriolet.
Ah, oui.
C'est le prof qui ouvre, qui s'approche. Et puis, elle est sale, votre voiture. Vous voulez la laver. Après, il les emmène faire un tour dans tout Paris. C'est magnifique.
Oui. J'ai jamais eu de cabriolet rouge, mais j'aimerais bien.
Apparemment.
Peut-être quand je serai un homme, je m'offrirai un cabriolet rouge. Non, mais je l'entends, hein, mais moi, je pense que j'ai... Non, je sais que je me suis forcée en faisant ce livre-là et je garde ce souvenir-là de quelque chose de forcé. Et d'ailleurs, l'éditeur me l'a dit à un moment, il m'a dit, j'aurais dû te dire que tu n'étais pas bien un homme.
Alors, vous êtes éditrice aux éditions du Rouergue. Vous avez créé la collection La Brune, une collection qui a publié à plusieurs des auteurs qui sont venus récemment, Librairie Majolire. Vous pouvez nous parler de ce travail dont vous avez juré de ne pas parler dans Le Livre des Visages, puis en même temps, vous allez au travail, vous en revenez,
oui.
Vous revenez de vacances, il faut reprendre le travail, donc il est là très présent.
Donc je travaille pour les éditions du Rouergue. Donc les éditions du Rouergue, c'est une maison qui a été créée il y a plus de 30 ans dans l'Aveyron, justement, c'est pas par hasard si je suis aussi originaire de là. Et puis, donc, en fait, après avoir publié mon premier roman, j'ai été invitée à une signature à Rodez, à la librairie de Rodez qui s'appelle La Maison du Livre, qui appartenait alors à la fondatrice du Rouergue, Danielle Dastugue. On a fait connaissance et à ce moment-là, elle n'avait pas de collection de romans au Rouergue. Elle voulait développer ce secteur-là. Elle savait que c'était très risqué. Et puis, on a eu une sorte de coup de foudre. Enfin, surtout d'elle à moi, quoi, dans un premier temps. Et donc, elle m'a proposé de travailler avec elle à la création d'une collection à partir de rien, quoi. C'est-à-dire qu'au Rouergue, le Rouergue faisait un peu de romans de terroir à l'époque, en fait toujours et tout. Mais il n'y avait pas vraiment l'idée, c'était de trouver de nouveaux auteurs, de les accompagner, de développer une collection depuis Rodez avec toute la difficulté. Donc ça, c'était en 97. Et on a lancé cette collection en se disant, on prend ce risque-là, quoi. Et 15 ans après, la collection est toujours là, avec quand même des auteurs qui ont fait un beau parcours pendant ce temps-là, qui sont toujours avec nous. Et on a gardé toujours la même façon de fonctionner qu'au début, c'est-à-dire publier peu de textes chaque année, entre 6 et 8, chercher en permanence de nouveaux auteurs qui démarrent, et puis faire en sorte de les faire un petit peu connaître.
Alors, vous lisez des manuscrits, on ne dit plus comme ça maintenant. Et ce que vous venez de dire, là, vous cherchez des nouveaux auteurs. Mmh. Ça consiste en quoi?
J'en vois un, La Buvard, par exemple, de Julia Kerninon, qui est sortie en janvier. Ça consiste à ouvrir les enveloppes qui nous arrivent. En ce moment, on doit être c'est au moins 3 ou 4 enveloppes par jour, manuscrits qui arrivent, ouais. Même plus. Donc voilà, c'est ce travail-là d'ouvrir et de voir dans cette masse de textes qui arrivent. Est-ce qu'il y a un écrivain qui peut intéresser la collection?
Vous lisez tout?
on ouvre tous les manuscrits.
Vous ouvrez tout.
Ouais, c'est moi-même, j'ouvre. Moi-même, j'ouvre. Donc, ça veut dire qu'on fait un tri assez rapide. Parce qu'entre 10 manuscrits qui nous arrivent, par exemple, il y en a 8 qui sont mis de côté très rapidement, qui sont éliminés parce qu'on estime que soit ce sont... D'abord, dans le genre, ça ne nous intéresse pas, c'est la poésie, enfin, des choses comme ça, où ce ne sont pas des écrivains qui ont écrit ce texte-là. Enfin, on sait reconnaître quand même la qualité des... On va chercher une vraie écriture d'abord, un vrai imaginaire... Les gens qui sont portés par quelque chose, donc voilà. Et puis les deux, trois qui restent, ils sont lus soit par moi, soit par une lectrice.
Puis vous dirigez également une collection de romans pour
ados.
Pour ados.
Oui.
Une collection importante, qu'hésite pas, là, c'est ce qui vient de se passer, à publier, y compris des gros bouquins, 500 pages.
Oui.
Vous pouvez parler de ce dernier livre ? C'est un pari, je veux dire.
Oui, c'est un pari, mais bon, oui, alors la collection pour ados, elle a démarré en même temps que La Brune, en 1998, donc elle a aussi 15 ans. Moi, je m'en occupe depuis 12-13 ans. En fait, on fait le même travail de sélection de manuscrits, de recherche d'auteurs, mais pour de la littérature pour adolescents. Donc ça veut dire qu'on a une vraie exigence d'écriture dans ces textes-là, d'imaginaire, d'univers. Et donc le livre dont vous parlez, Le cœur des louves, de Stéphane Servan, c'est effectivement un roman qui fait 500 pages, l'histoire de trois générations de femmes dans un village perdu dans la montagne. Donc on remonte le temps, ces trois femmes sont des femmes qui se battent aussi pour la reconnaissance de leur être de femme. Enfin, c'est l'auteur, donc, qui est un homme de 40 ans, Stéphane Servan, m'a dit, en me donnant ce manuscrit, pour moi, j'ai voulu faire un roman féministe. Un roman dans lequel les femmes se battent dans un monde d'hommes extrêmement dur. C'est une petite communauté d'hommes extrêmement violente aussi. Voilà, donc on fait aussi ce pari-là. Alors, ce livre-là, Le cœur des louves, on sait que ça s'adresse plutôt à des grands ados adultes, parce qu'aujourd'hui, dans l'édition, il y a de plus en plus des livres qui quittent le domaine de la jeunesse pour aller vers les... Vous savez, c'est aussi une évolution. Aujourd'hui, on est ado entre 15 et 25 ans. Hein. Voilà, il y a une frontière là qui évolue beaucoup. Hein. On est ado de plus en plus jeune et on le reste de plus en plus tard, en gros. On voit ça aussi au cinéma. Il y a des livres de plus en plus qui s'adressent à cette tranche-là. Donc, ce livre-là, Le cœur des louves, on nous a même dit que, voilà, des... C'est un livre transgénérationnel.
Puis vous avez aussi une collection de romans pour enfants,
oui.
Zigzag.
On a Zigzag, on a aussi développé une collection qui s'appelle Boomerang. C'est deux histoires en une. On essaye aussi, oui voilà, on essaye de faire ce travail sur tous les âges, puisque le Rouergue, depuis 20 ans, est aussi réputé comme maison d'édition pour la jeunesse. Donc on a beaucoup d'albums. Enfin, moi, je ne m'en occupe pas, mais on fait beaucoup ça aussi, des livres illustrés pour enfants.
Couleur FM 97.1 avec notre invitée Sylvie Gracia. Nous venons d'entendre pour terminer Enrico Pieranunzi dans Épisode de l'album Untold Story.
On va bientôt avoir terminé cet entretien. J'aimerais que vous nous racontiez pour mettre un petit peu de choses plus faciles. Quand vous êtes allé, vous avez été invité à la foire du livre de Montpellier, je crois que c'est Montpellier, vous commencez par rater votre train.
C'est à la Ferté
du livre.
Une fête du livre à la Ferté Vidame. Je crois que je ne donne pas le nom.
Non, vous ne donnez pas le nom.
Je ne donne pas le nom. Non, pour vous dire que parfois les fêtes du livre me dépriment, en fait. Je dis ce qu'il ne faudrait pas dire quand on est écrivain et éditeur en plus. C'est pour ça que je fais attention de ne pas. Un jour, j'écrirai mes mémoires d'éditeur, mais quand je ne serai plus éditeur, comme ça, je ferai des portraits d'écrivains terribles et tout. Toutes les horreurs que je pourrais raconter, je les raconterai. Mais là, dans cette. Voilà, je dis que les foires du livre me dépriment souvent. D'abord parce que moi, je vends pas, j'arrive pas à vendre de livres. Mes livres se vendent pas, hein, vous savez. Donc, quand vous signez que tous les autres vendent, vous vendez rien. Bon, c'est déprimant. Et là, cette foire du livre, donc, je me réveille pas pour prendre le train. Et c'est Ahmed Kalouaz, d'ailleurs, que vous avez reçu ici, qui était aussi invité à cette foire. Il est dans le train avec tous les autres écrivains. Il m'appelle, il me dit « Tu es où dans le wagon ?» Et j'étais au fond de mon lit. Et là, je me dis « Ça commence mal. » Et donc, je prends un train. C'est une ville pas très loin de Paris. Donc, je prends le train suivant. J'étais invité à un débat. J'arrive effectivement au milieu du débat avec des gens très connus, genre Geneviève Brisac. Donc, j'arrive au milieu du débat, on me pose une question, je ne comprends pas la question, puisque je n'ai pas assisté au début du débat. Et après, je sors du débat, et la conseillère littéraire, qui est aussi une personne très bien, me dit, il y a un problème, c'est qu'on s'est trompé dans votre nom, et on a commandé les livres d'une certaine Sylvie Garcia, qui publie à l'Harmattan. Et alors là, je me dis, bon, bah, J'avais raison, voilà. Et donc, j'arrive à la table de signature, j'avais plus de livres, puisqu'ils n'avaient pas osé me mettre les livres de cette personne qui publie à l'Harmattan. Et j'avais quand même autour de moi des gens qui me connaissaient et qui m'ont dit « T'as publié à l'Harmattan, j'attends. » Donc, c'était très drôle, quand même. Après, il y avait un autre truc, il y a le préfet qui a débarqué avec je ne sais plus qui. Il avait débarqué avec un homme politique, je crois, qui avait publié un livre. Et là, c'était la démonstration. Il y avait les voitures noires, le service d'ordre et tout ça, la Mercedes et tout.
Alors quand même, juste un petit mot avant que je ne vous demande si vous êtes d'accord de nous lire deux passages. Vous arrêtez pas de parler de bouquins dans le livre des visages. Vous lisez beaucoup, vous fréquentez je ne sais combien, je n'ai pas compté tellement il y en a de librairies. Est-ce que je peux vous demander, au-dessus de votre pile à vous, qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment ?
Je suis en train de lire un premier roman allemand. Et je l'ai vu là dans les rayons. Alors, comment il s'appelle ? Astrid Rosenthal, non, peut-être pas. Ça s'appelle... il y a Adam dans le titre. Mais c'est un premier roman. Parce que la semaine dernière, en fait, pour vous dire, je fréquente des librairies. J'étais à Mulhouse, une librairie qui s'appelle 47 degrés Nord, qui est une librairie qui s'est créée il y a un an et demi, qui est une très bonne librairie, enfin vraiment qui marche très bien. Donc ça, c'est réconfortant de voir des librairies qui se créent et qui marchent très bien, avec des libraires qui invitent des auteurs. Et donc, il m'a conseillé ce premier roman allemand. Et comme il me l'a conseillé, ben, je l'ai acheté. Il y a Adam dans le titre et l'affiche, je crois que ça s'appelle Astrid.
Vous acceptez de nous lire deux extraits puis peut-être ajouter un petit commentaire.
Ce journal s'appelle « Le livre des visages ». Me suis-je souvenu aujourd'hui ? Pourtant, je ne devrais pas l'oublier. J'ai passé la soirée de mercredi à relire l'ensemble des textes écrits depuis l'origine. 9 mois de ma vie consignés, textes publiés sur Facebook et ceux qui ne l'ont pas été. Ce qui est écrit et ce qui ne l'a pas été, que moi seul décrypte dans les creux des mots. Il me faudra bien tous les laisser sortir, pensais-je, tous, même les pornographiques, de même que j'écris aujourd'hui que ma bouche tombe, que mes rides sont tristes. La vie n'a pas de fil continu. Aujourd'hui, demain, le désir, la peine, la colère... À l'arrêt de bus sous lequel je me suis réfugiée, boulevard Malherbe, après avoir remonté à toute allure les allées de Monceau, alors que de grosses gouttes, puis une averse lourde noie Paris, je partage un quart d'heure avec un homme et son petit garçon. Le bus se fait attendre. Manifestation est-il affiché sur le panneau électronique. Le petit garçon aux longues boucles blondes piétine sur sa trottinette et régulièrement s'avance sur le bord du trottoir pour prendre la pluie. Son père le contient avec intelligence et humour. Nous parlons un peu. Je me sens ridicule avec mon brushing élégant, légèrement affaissé, mes ballerines mouillées. La ville s'est refermée sur nous, un abribus, 15 minutes de temps, rien d'autre, un temps vécu. Ça, je m'en souviens, voilà, vous m'avez fait revenir un souvenir de... Ah, mais c'était en mars, oui, c'est ça, 26 mars.
C'est une illustration de ce livre, hein, très bonne. Il y a le journal et puis il y a la vie quotidienne. Oui, il y a la vie. Qui s'entremêlent et...
Mais parce que je pense que la pensée vient au quotidien, avec la confrontation, on est tous comme ça, on voit quelque chose et tout d'un coup, ce quelque chose nous fait réfléchir. Je pense que c'est vraiment aussi de cet infime, de ce banal, qu'on peut faire venir la pensée. En tout cas, ça, je pense que c'est très féminin aussi, puisqu'on a toujours été confrontés au plus quotidien, au plus banal. C'est avec ça qu'on peut réfléchir.
On va terminer l'entretien. Je vous remercie beaucoup, Sylvie Gracia.
Ben, merci à vous.
Merci beaucoup, Dan. À bientôt. Merci, Dominique.
Et merci,
Laurent.
Merci.
Et merci à Sylvie Gracia.